carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous écouter sur Canal Académie. Nous vous proposons de mieux connaître ou de découvrir parfois Nicolas Delaide, un sculpteur prodigieux, actif pendant ce qu'on appelle le gothique tardif sur le Rhin supérieur. L'exposition intitulée « Nicolas Delaide, sculpteur du XVe siècle, un regard moderne » qui se trouve au musée de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, c'est un musée du Moyen-Âge et de la Renaissance, nous donne l'occasion d'évoquer l'extraordinaire personnalité de cet artiste européen et le formidable retentissement de son art. C'est une exposition élaborée conjointement avec le musée de sculpture de Francfort. L'exposition de Strasbourg, que l'on pourra visiter jusqu'au 8 juillet 2012, regroupe environ 70 œuvres de techniques et de supports variés provenant de collections publiques et privées, européennes et américaines, Paris, Berlin, Amsterdam, New York, Chicago. Roland Recht, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, professeur au Collège de France, historien de l'art, co-commissaire de l'exposition en question et co-auteur du catalogue, nous parle de ce fameux Nicolas Gerhardt, dit-on parfois, de l'aide. Roland Recht, bonjour.
Bonjour.
Merci, monsieur, d'avoir répondu à votre invitation. Vous avez écrit votre thèse d'état sur Nicolas Delaide. Vous avez enseigné à l'Université de Strasbourg. Alors, monsieur, avant de nous expliquer la modernité, les innovations dans le fond et dans la forme de Nicolas Delaide, parlons du rôle de la place de la ville de Strasbourg dans le gothique tardif. Et d'abord, le gothique tardif, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle gothique tardif ?
Alors, en effet, le gothique tardif est une notion assez floue quand on commence à l'analyser et à essayer de la clarifier. Parce qu'au fond, c'est la traduction littérale d'une notion allemande, spätgotique. Mais le rythme de progression de l'architecture et de la sculpture et de la peinture gothique n'est pas le même en Allemagne que dans les autres pays d'Europe. Par exemple, la France et l'Angleterre évoluent d'une manière beaucoup plus rapide. Et on peut dire que la phase finale du gothique commence en France au cours du XIVe siècle. Donc, c'est une notion commode parce que ça nous permet de parler, sinon il faut chaque fois revenir sur les termes et les analyser, mais c'est une notion un peu générale qui englobe une phase durant laquelle, aussi bien dans la sculpture que dans l'architecture, je dirais essentiellement, on entre dans un monde de formes qui à la fois revient au XIIIe siècle, ce qui est très intéressant, il y a des courants rétrospectifs par rapport au XIIIe siècle, et en même temps qui affirme un nouveau langage formel qui va se caractériser essentiellement par exemple le drapé en plis brisés, cassés, une sorte de fermeté dans le traitement formel qui conduit à des formes parfois on peut considérer comme presque cubistes déjà, aussi bien dans la peinture d'ailleurs des années 1420 que dans la sculpture un peu plus tard vers les années 1450.
Dans la peinture aussi, il y a des formes que l'on peut appeler cubistes ?
Absolument, dans la peinture.
Quel exemple ?
Je pense par exemple à Konrad Witz qui est un artiste rhénan, qui a laissé quelques œuvres, malheureusement, beaucoup de ses œuvres sont perdues, mais qui a été influencé par la peinture septentrionale, par les Flamands, et qui a transformé leur langage en quelque chose d'encore plus, j'allais presque dire, de plus aride, une sorte de puissance qui se dégage de ces formes, liée à presque une sorte de sauvagerie. Et on peut dire, en effet, qu'il y a là tout un répertoire formel. Pourquoi cubiste ? Évidemment, c'est toujours un peu facile
mais
d'utiliser
c'est
des
une
termes anachroniques. Oui,
mais c'est une manière de dire.
Voilà, c'est une manière de caractériser ce qui est, je dirais, le propre de cette époque, donc les environs de 1440. Nous nous approchons un petit peu de ce que nous connaissons de Nicolas Delaide, où, en effet, on a l'impression que les peintres eux-mêmes, et c'est le cas de Witz, peignent un peu des sculptures, comme si les figures qui sont représentées dans les tableaux sont des sculptures qu'on aurait isolées et qu'on aurait représentées ainsi en deux dimensions, mais avec un effet illusionniste dans la troisième dimension. Et comme il y a là des maladresses, fatalement, on a quelque chose d'un petit peu gauchi par endroit, par rapport à une perspective et par rapport à des ombres projetées normales, quelque chose qui se rapprocherait, en effet, pourquoi pas, d'une sorte de cubisme analytique.
Alors, j'ai lu que l'exposition de Strasbourg représentait pour vous, et je vous cite, « le point d'orgue d'une fascination pour l'un des plus grands créateurs du XVe ». Alors, que sait-on sur la vie de Nicolas Delaide ? Quelles sont ses dates ? Vous avez commencé à nous le dire, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui que sur les autres artistes médiévaux pour lesquels, en fait, on n'a que des esquisses biographiques ?
Alors, en effet, beaucoup d'artistes du Moyen-Âge sont peu documentés. C'est le cas pratiquement pour la plupart d'entre eux, sauf lorsqu'ils étaient au service d'un prince. On peut parler de Sluter, on va le faire tout à l'heure. Sluter, sur la vie duquel on ne sait pas grand-chose, bien entendu, mais on a quand même quelques repères chronologiques. Et on sait surtout pour qui il a travaillé. Pour le cas des artistes du XVe siècle, les choses changent quand même un petit peu. Par exemple, tous les principaux sculpteurs qui ont été influencés par Nicolas de Led, je dirais presque plus encore que pour Nicolas de Led, on a des contrats, on a des actes de paiement partiels pour des commandes. Donc, on a quelques points de repère et on a aussi la possibilité, par exemple, pour un sculpteur comme Feitschthaus, qui est un sculpteur de Nuremberg, on peut suivre sa carrière quand il va à Cracovie, quand il revient, etc. Je crois que le fait que l'on n'ait pas une documentation aussi suivie que pour les artistes modernes, on a parfois tendance à croire que pour le Moyen-Âge, on ne sait rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une documentation qui est de plus en plus abondante, tout est relatif, au cours du XVe siècle.
Alors pour Nicolas de Led, il naît à Led, pense-t-on ?
Pense-t-on, mais ça commence là déjà, les interrogations commencent là. Est-il vraiment né à Led ? On peut même se demander, a-t-il jamais séjourné à Led ? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Nicolas de Led qu'il a retiré d'un séjour à Led quoi que ce soit, soit du point de vue de la formation, soit même de son enseignement d'une manière plus générale. Il porte ce nom, c'est en principe le nom de la dernière ville dans laquelle il a vécu. Mais à quel âge a-t-il quitté Led ? On n'en sait strictement rien. Et le Gerhardt, puisque c'est Nicolas Gerhardt von Leiden, Nicolas Gerhardt de Led, ce Gerhardt, cet S est très important parce que ça signifie, c'est en fait un génitif, donc ça signifie que c'est Nicolas, fils de Gerhardt de Led. Voilà, donc nous avons dans cette dénomination quelque chose qui pourrait ressembler à une origine, mais on n'en sait rien, on n'en est pas sûr. Et il n'y a pas non plus à Led des œuvres d'art en quantité suffisante. L'iconoclasme est passé par là. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait pu voir, ce qu'il aurait pu connaître.
On pense quand même que ses œuvres laissent supposer qu'il a pu voyager en Bourgogne, dans le nord de la France, parce que, et d'ailleurs dans la liste des œuvres exposées à Strasbourg, j'ai remarqué qu'il y avait deux prêts du musée archéologique de Dijon, dont un des éléments du Puy de Moïse de Klaus Schlauter. Donc Klaus Schlauter, Nicolas de Led, il y aurait une filiation. Alors, à 50 ans d'écart, il y aurait eu une filiation.
Ça, c'est une hypothèse. Il faut bien le préciser. Et je crois que le propre de à la fois de tout livre et de toute exposition, c'est d'oser des hypothèses. Donc là, il y a une hypothèse, non pas d'affirmer qu'il a connu l'œuvre de Klaus Luther, mais qu'il a pu entrer en contact, sinon avec son œuvre, donc fait un voyage à Dijon, à Champmol, soit un contact avec des successeurs de Klaus Luther, qui a quand même été le maître de plusieurs autres
Klaus
artistes.
De Vèvre et d'autres.
Voilà, par exemple. C'est une hypothèse, mais comme il y en a une ou l'autre également, ce qui est sûr, c'est qu'il a connu le milieu des Pays-Bas du Nord et du Sud. Ça, c'est absolument
indiscutable. Burgondo-flamand.
Voilà, il a connu cet art de la peinture. Ce qu'il a connu de la sculpture est plus mal connu, parce que la sculpture elle-même n'est pas conservée d'une manière aussi complète qu'on le souhaiterait, évidemment. Et donc, il a été en contact, certainement, avec ce monde qui est celui des primitifs flamands, comme nous les appelons d'une manière courante, c'est-à-dire les Van Eyck, Maître de Flémal, Roger van der Weyden. Ce milieu-là, il l'a connu d'une manière absolument indiscutable. Et certaines de ses œuvres, plastiques, en trois dimensions, sont visiblement inspirées par des œuvres en deux dimensions de Van Eyck ou de Roger van der Weyden. Donc là, nous avons une certitude, je dirais, qui n'est pas dictée par des sources d'archives, par une attestation quelconque de cet ordre, mais plutôt par le fait qu'il n'est pas pensable qu'il n'ait pas été familiarisé avec cet art. Ça, c'est le début.
Oui, c'est voilà. Ça, parce qu'après, bien sûr...
Après, nous savons mieux ce qu'il a fait.
Après, vous savez mieux, puisqu'il arrive à Strasbourg. Alors, quand arrive-t-il ? Que fait-il à Strasbourg ?
Alors, il est pratiquement certain qu'on croyait très longtemps qu'il était à Strasbourg en 1463, je précise. Il semblerait qu'il ait déjà été en 1462, et peut-être même déjà en 1460.
Oui, parce que les découvertes se font tous les jours.
Se font actuellement, d'autant plus qu'il y a ce projet d'exposition qui a mobilisé une équipe, et je dois quand même rendre hommage à nos collègues allemands, qui ont trouvé les moyens financiers pour faire des examens scientifiques sur un certain nombre d'œuvres de Nicolas de Led, ou en tout cas attribuées à Nicolas de Led. Et ils ont fait des découvertes extrêmement intéressantes, par exemple en localisant les ateliers de Polly Kromer, des œuvres en bois de Nicolas de Led, et en pouvant affirmer que c'est strasbourgeois, que cet atelier est strasbourgeois. Donc ça, ce sont vraiment des études qui ont demandé beaucoup de temps, qui ont demandé beaucoup d'argent.
Mais ce sont des avancées extraordinaires. Parce
ce
que
sont
à partir
de grandes avancées.
Où on sait d'où viennent les ateliers, toute la trame s'installe.
Ça devient un peu plus clair. Mais la situation de Nicolas de Led est compliquée depuis très longtemps, parce que vous avez rappelé tout à l'heure ma thèse d'État, je précise qu'elle date de 1978, et que, à l'époque, j'étais, comme d'ailleurs un certain nombre de collègues, nous étions d'ailleurs les plus nombreux, persuadé qu'il y avait deux grands artistes à Strasbourg à cette époque, c'est-à-dire en gros dans les années 1460. L'un avait pratiquement réalisé que des œuvres en pierre, c'est Nicolas de Led, et un autre, auquel on donnait un nom d'emprunt, à partir de son œuvre la plus célèbre, c'est-à-dire la Vierge de Dingolsheim, on disait le maître de la Vierge de Dingolsheim. Or, il semble bien qu'il faille se rendre à l'évidence, et je m'y suis rendu aussi, que c'est le même artiste. Simplement, on ne connaissait pas d'œuvre en bois, et c'est vrai que c'est un artiste qui est tellement sensible aux matériaux, qui a une telle faculté à la fois de s'adapter aux matériaux qu'il a en face de lui, mais en même temps d'inventer un langage en fonction du matériau qu'il utilise, que tant que la possibilité n'avait pas été donnée de joindre les deux corpus, en pierre d'un côté, en bois de l'autre, c'était difficile. Alors, il se trouve que maintenant, on lui attribue non seulement les œuvres en pierre, dont on va peut-être dire quelques mots, mais aussi un corpus d'œuvres en bois, et en particulier un retable qui se trouve dans le sud de l'Allemagne, à Nördlingen, qui est un retable baroque, mais dans lequel les sculptures sont encore du XVe siècle. Et là, on connaît une date, 1462, et maintenant, on a la quasi-certitude que ce sont des œuvres de Nicolas de Led et de son atelier, c'est pas uniquement de lui, il y a des choses un peu plus faibles, et de son atelier, que le tout a été polychromé à Strasbourg, et que ça avance d'une année au moins sa présence à Strasbourg.
Donc il arrive vers 1462,
voilà,
on va dire
ça, là, c'est une certitude. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à Strasbourg, il a un statut un peu curieux, il est bourgeois de l'écoutette, ce qu'on appelle bourgeois de l'écoutette, c'est-à-dire qu'il n'a pas un statut de bourgeois plein, mais il a tout de même des droits. Et de toute façon, comme la ville de Strasbourg elle-même lui commande le décor de la chancellerie, il est évident qu'il avait un statut tout à fait particulier. Et là, il reçoit deux lettres de l'empereur qui lui demandent, Frédéric III, qui lui demande de le rejoindre à sa cour à Wiener-Neustadt pour exécuter des œuvres qu'il voudrait lui commander. Figurez-vous que Nicolas de Led avait une personnalité extrêmement fougueuse, ça semble être le cas quand on observe aussi ses œuvres, il ne répond pas à la première lettre. Et il a fallu que la cour impériale, l'empereur lui-même, envoie un deuxième courrier, et il se rend enfin à ce deuxième courrier, et en 1467, donc après un séjour extrêmement court à Strasbourg, il rejoint la cour impériale, et il va travailler sur les deux tombeaux, le tombeau de Frédéric III lui-même et le tombeau de Éléonore, son épouse, et il meurt en 1473.
Il n'a pas eu le temps de les finir.
Alors ce que nous connaissons de sa carrière, comme vous le constatez, ça s'échelonne sur 11 ans, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des œuvres qui ne peuvent pas toutes avoir été produites dans un laps de temps aussi court. Mais enfin, en gros, sa vie, sa carrière est documentée sur 11 ans.
Alors parlons de ses œuvres en pierre, en bois. À Strasbourg, il nous en reste 4. D'autres sont dans les pays rhénans, pays germaniques. Le tombeau d'un archevêque, Jacobson de Sirk.
Qui est à Trèves.
À Trèves. La Vierge à l'Enfant et la Sibylle, qui sont à Strasbourg.
Alors, n'est à Strasbourg que le prophète, la figure de prophète. Et la figure de Sibylle est à Francfort.
À Francfort.
Voilà.
Et puis à Strasbourg, il y a l'épitaphe d'un chanoine à la cathédrale de Strasbourg. Et puis le fameux buste d'homme accoudé dont on va parler avec beaucoup d'attention parce que c'est un thème qu'il n'a pas inventé mais qu'il a un peu remodelé parce qu'on a l'impression que là, vous allez pouvoir nous dire qu'on parle de modernité puisque c'est la sculpture qui nous regarde, que nous regardons.
Oui,
alors allons-y parce que nous avons vraiment un personnage incroyable à évoquer.
En effet, c'est une personnalité absolument remarquable qui, à cause du petit nombre d'œuvres, n'a pas du tout la réputation qu'il mérite évidemment d'avoir, parce qu'on peut vraiment affirmer qu'au XVe siècle, il y a en Europe deux grands artistes, deux grands sculpteurs, deux immenses sculpteurs, c'est Klaus Luther et c'est Nicolas de Led. Voilà. Alors après, il y a beaucoup de noms connus, notamment dans l'Empire, mais ce sont ces deux figures qui marquent vraiment profondément le développement artistique au XVe siècle. Alors les œuvres de Nicolas de Led se caractérise par une extraordinaire capacité d'innovation. Je prends simplement trois exemples. Il a réalisé un crucifix qui a plus de 6 mètres de haut pour un barbier de la cour de Bade. Et les barbiers étaient en même temps chirurgiens, comme vous savez, à l'époque. Donc c'était quelqu'un qui avait une fortune personnelle considérable. Il a commandé pour le cimetière de Baden-Baden un crucifix de 6 mètres, de presque 6,50 mètres de haut. Et la croix et le corps du Christ sont taillés dans la même pierre. Sur une telle hauteur, c'est un prodige technique.
C'est pas du grès, parce qu'à Strasbourg, c'est toujours
c'est
du grès, mais là aussi, c'est,
là
du
aussi c'est du grès. Là aussi, c'est du grès. Ce sont des, pas toujours des grès de la même carrière, mais ce sont des grès. Non seulement il réalise cette prouesse technique, mais en plus, il représente un Christ d'une iconographie tout à fait neuve, à tel point qu'il va être beaucoup imité. Il y a une thèse qui nous explique le nombre de crucifix et qui ont été réalisés en imitant celui de
Qu'est-ce
Nicolas
Qu'est-ce qui
de
était neuf?
Alors, ce qui était neuf, c'est la présentation du Christ qui a un corps d'une très grande beauté. Il n'y a pas du tout une sorte de complaisance, comme parfois dans la peinture de cette époque, dans l'Empire, une complaisance vis-à-vis du sang, de la souffrance.
Du pathos.
Tous les côtés pathétiques. Il y a quelque chose de très retenu. Aussi dans le visage, une sorte de souveraineté extraordinaire. Et le fait que les membres soient complètement étirés lui donne en effet cette sorte de force, de présence incroyable. Par-delà la souffrance, c'est vraiment la dignité royale qui est indiquée comme cela. Avec alors un souci du détail, par exemple le traitement de la couronne d'épines, où il y a des véritables épines qui ont été plantées dans des trous ménagés dans la pierre. Et cette couronne elle-même est ajourée autour de la tête, comme les boucles d'ailleurs aussi sont ajourées. Voilà, donc je mêle un petit peu l'aspect à la fois novateur sur le plan iconographique, parce qu'avant lui, il n'y a aucun exemple d'un crucifix de cette importance et de cette iconographie-là, et aussi, encore une fois, la prouesse technique. Alors il y a ça, il y a deuxième thème où il a énormément innové, c'est dans celui du buste. Le buste accoudé, en effet, le buste dans une niche, comme par exemple pour ce chanoine de la cathédrale de Strasbourg, il est au même niveau que la Vierge qui est à côté de lui, mais ils sont tous les deux vus en buste, appuyés sur une sorte d'allège, avec un enfant Jésus qui est en train de s'agiter, qui pourrait presque tomber dans l'espace réel.
Oui, c'est dynamique.
Oui, c'est ça.
C'est intérieur et dynamique, c'est voilà. Ça qui est étonnant.
Donc le thème du buste, alors il va le développer dans le décor de la chancellerie de Strasbourg, il va le développer dans cette merveilleuse œuvre de l'homme accoudé qui tient son menton, qui est une énigme en même temps et qui est une nouveauté dans la mesure où il nous montre là un personnage qui devait être appuyé sur quelque chose parce que son mouvement des deux bras ferme la composition du buste, donc on ne peut pas imaginer qu'il y avait un corps. Donc il était présenté dans un encadrement et en même temps, à la différence de tous les autres bustes et de Nicolas de Led et de ses successeurs, c'est un buste qui ne regarde rien.
Oui,
c'est
un buste qui a les
yeux
clos.
Voilà, il a les yeux presque clos, pas tout à fait, mais presque clos. En tout cas, il ne voit pas, il ne regarde pas devant lui. Et je formule cela de la manière suivante, il tient un regard sur lui-même, si vous voulez.
Oui, c'est un peu mélancolique.
Vraiment, c'est tout à fait le thème de la mélancolie. D'ailleurs, la façon de se tenir, ce sera la grande thématique de la mélancolie telle qu'elle est représentée dans toute l'histoire de l'art. Mais en plus de cette mélancolie, il y a cette sorte de familiarité. C'est un personnage qui n'a sans aucun doute aucune signification religieuse. Je crois qu'il faut complètement oublier ses interprétations.
Est-ce que ça serait un autoportrait ?
Alors, l'idée, évidemment, a été émise depuis longtemps que ça pourrait être un autoportrait. Ça paraîtrait assez vraisemblable, étant donné l'audace qu'il a mise dans cette représentation, dans cet examen incroyablement fin, attentif de chaque détail, de la peau, la manière dont les doigts pénètrent, appuient la joue et créent des espèces de rides autour de ce point d'appui des doigts, la façon de traiter les rides sur les yeux, sur les bords des yeux, les pas de doigts. Tout cela est d'une très grande attention. C'est aussi de la virtuosité, mais pour créer un portrait saisissant, absolument saisissant. C'est sans doute un des portraits les plus remarquables de tout le XVe siècle.
Ça fait un peu instantané aussi.
C'est tout à fait un instantané. Et les deux bustes de la chancellerie, de cet homme et de cette femme qui regardaient par une fenêtre, on n'a malheureusement plus que des fragments, il n'y a plus que les deux têtes. Mais là aussi, ce sont des instantanés. Et nous avons pu faire nettoyer la tête de l'homme au turban, qui appartient aux collections du musée de l'œuvre Notre-Dame. Et on a découvert là aussi un traitement de la surface de la pierre qui est d'une subtilité absolument incroyable, qui d'ailleurs nous font penser qu'il n'y a jamais eu de polychromie sur ces œuvres. Parce que ce serait impensable que le sculpteur ait mis un tel soin, une telle attention à la représentation du visage, et qu'ensuite, tous ces détails, les rides, les plis, auraient été, ou même les, la manière de traiter les sourcils, que tout cela aurait été noyé dans la polychromie, fatalement. Et alors, il y a une troisième chose, c'est le fait que Nicolas de Led va aussi introduire, semble-t-il, un type de gisant nouveau. Et c'est l'exemple de Jacob von Sirk, de l'évêque de Trèves, et aussi, d'ailleurs, du gisant de Frédéric III à Wiener-Neustadt. Cette façon de représenter le corps du gisant comme s'il était, non pas couché sur la dalle, mais comme si c'était une ronde bosse posée sur une dalle. Ce qui change complètement la conception spatiale.
Il n'y a pas de raideur.
Il n'y a pas de raideur. Il y a une autonomie, si vous voulez, complète du corps, une sorte de détachement complet du corps par rapport au support, ce qui n'est pas une manière habituelle de traiter le gisant. Là aussi, il y a presque une sorte de spiritualisation de la figure même du personnage, mais de nouveau à l'aide d'un ciseau et d'outils d'une très grande variété grâce auxquels il arrive à donner réalité à un matériau qui n'est pas très facile à traiter, c'est le grès. Le marbre qu'il utilise à Vienne pour l'empereur permet davantage ce genre de choses, mais dans le grès, c'est plus difficile parce que le grès lui-même est un matériau friable, sensible à l'érosion naturelle, donc c'est une très grande audace tout ce qu'il a pu faire là. Voilà, donc ça ce sont les trois grandes innovations de Nicolas de Led.
Avant qu'on parle des successeurs de Nicolas de Led, on n'a pas vraiment parlé de la place de Strasbourg qui me semble être absolument incroyable, cette métropole, à ce moment-là. C'est une métropole artistique.
En effet, on peut se demander pourquoi un artiste de cette importance s'est arrêté à Strasbourg. Et il semble avoir emmené avec lui, je ne pense pas qu'il l'ait recruté entièrement sur place, un atelier déjà. Donc, pourquoi s'est-il arrêté là ? D'abord parce que Strasbourg était une grande capitale. Bon, c'était vraiment une capitale européenne, je dirais, déjà à cette époque-là, par son activité, le transport sur le Rhin, les douanes qui prélevaient des taxes sur les différents marchands, sur les commerces, tout ça était évidemment très important. Et ce qui nous donne un indice, encore très visible aujourd'hui, de l'importance de Strasbourg, c'est sa cathédrale. Or, la cathédrale de Strasbourg semble avoir été achevée en 1439. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a encore continué de travailler, on a encore ajouté des chapelles, on a encore évidemment exécuté des retables, etc. Donc, il y avait là un chantier avec une activité considérable pour les sculpteurs. Alors, ce n'est pas du tout parce qu'ils voulaient entrer dans ce chantier et travailler comme sculpteur à la cathédrale que Nicolas de Led s'est arrêté à Strasbourg, certainement pas. Mais il y avait là un milieu extrêmement stimulant qui existait, qui est en permanence, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est intéressé aussi à Strasbourg. Il y avait quelques riches patriciens, mais en même temps, on n'a pas le sentiment, j'ai un peu étudié cette question à l'époque de ma thèse, on n'a pas le sentiment que ces patriciens étaient suffisamment aisés, ou en tout cas, si, c'était très riche, mais ils n'avaient peut-être pas le goût pour l'art. Voilà, c'est plutôt ça. Ils n'avaient peut-être pas le goût pour l'art, ils achetaient beaucoup de choses qui étaient plutôt fonctionnelles. Ils avaient des maisons magnifiques, mais l'œuvre d'art, c'était autre chose. Mais là, ce sont des commandes officielles. La chancellerie, c'est une commande de la ville. L'épitaphe de la cathédrale, c'est une commande d'un grand chanoine. Le crucifix de Baden-Baden, c'est la commande du chirurgien de Bade.
Alors, les successeurs strasbourgeois, et même au-delà, les successeurs germaniques,
oui.
Il y en a eu de plus importants que d'autres.
Oui. Alors, il a d'abord, en effet, exercé une influence immédiate sur la sculpture à Strasbourg et sur le Rhin supérieur. Donc là, quand je dis immédiate, c'est dès les années 70, donc il était parti depuis 3 ans.
Il y a Nicolas de Haguenau.
Alors, il y a Nicolas de Haguenau, qui est un de ses, non pas disciples, mais enfin, qui est quand même un des grands artistes dans les années, je pense déjà 1480-90, qui va travailler jusque dans les années 1520, qui est l'auteur en particulier des sculptures du retable d'Isenheim, dont les volets ont été peints après les sculptures par Grunewald. Et puis, il y a Veit Wagner, qui est un autre artiste. Il semblerait que ces artistes strasbourgeois, je les nomme ainsi, avaient des grands ateliers aussi, qui répondaient à beaucoup de commandes. Il y avait une dépense pour les retables, en particulier les retables en bois, qui était considérable. Jusque dans les années 1515, lorsque déjà les critiques
la réforme.
Qui vont donner la réformation étaient de plus en plus nombreuses. Mais on continuait encore de produire des œuvres d'art pour les églises en grand nombre. Évidemment, un certain nombre de ces œuvres ont aussi disparu à cause de l'iconoclasme des réformateurs. Et alors, il y a les artistes de l'Europe.
C'est ça,
voilà, du sud,
au-delà.
Voilà, au-delà de l'Empire. Ce sont essentiellement des artistes du sud de l'Empire, jusqu'en Europe centrale. Alors là, on peut citer aussi bien Tilman Riemenschneider, qui était un des plus importants sculpteurs de Würzburg, qui avait un immense atelier, qui a certainement connu l'art de Nicolas de Led. Cela se voit dans ses œuvres de jeunesse. Il y a Veit Stoss, dont j'ai déjà parlé, qui est un sculpteur de Nuremberg, une personnalité extrêmement importante pour la sculpture de la fin du Moyen-Âge, qui est l'auteur de cet immense maître-autel retable de Cracovie.
Est-ce qu'on peut dire que ça a un lien avec le pré-baroque ?
Alors, dans une certaine mesure, il y a des œuvres de Nicolas de Led qui, elles-mêmes déjà, annoncent un art beaucoup plus moderne. Baroque par le mouvement des drapés, par exemple, cette espèce de retournement qu'il fait subir au tissu d'un manteau d'une vierge.
Ou même des personnages, parce que son buste est brillé.
Voilà, ça aussi. Il y a ce sens du mouvement dynamique qui vient de l'intérieur de la figure et qui contamine tout le corps et tout le vêtement. Ça, c'est quelque chose qui est baroque. Mais il y a quelque chose d'autre chez Nicolas de Led qui va au-delà du baroque. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que, au fond, le regard qu'il porte sur le monde, et on peut voir cela à chaque œuvre qu'on examine de lui, le regard qu'il porte sur le monde n'est pas du tout le regard d'un artiste médiéval. Il rompt, d'une certaine manière, déjà avec le Moyen-Âge, et il a déjà un pied, si je puis dire, beaucoup plus que ça même, dans les temps modernes. Parce que, au fond, ce qui est important dans ces bustes en particulier, c'est le fait que le personnage qu'il nous montre suscite une sorte de dialogue avec nous. Donc, cette sorte d'échange de regards, déjà, mais aussi de gestes, parce que ces figures qu'il montre ne sont pas simplement des bustes qui regardent vers nous.
Mais on dirait qu'ils tendent la main.
Voilà, ils font des mouvements un peu, une sorte de torsion du buste lui-même, et une main qui avance, l'autre qui avance moins. Donc, une sorte de sollicitation, si vous voulez, qui est extrêmement importante, parce que là, nous entrons dans un monde où la figure humaine, d'abord, est exaltée. Bon, ça, c'est conforme au XVe siècle, où on découvre vraiment le portrait moderne. Mais c'est aussi plus que cela. C'est notamment dans le cas de ce buste que j'ai décrit tout à l'heure, qui est considéré parfois comme un autoportrait. Il a regard sur le monde, même s'il a des yeux quasiment fermés, il a un regard sur le monde qui est un regard vraiment moderne. C'est la conscience de soi, si vous voulez. C'est le fait que le sujet se regarde lui-même, se contemple lui-même, dans une sorte de repli sur lui-même. Et là, c'est vraiment, je dirais, l'image de l'humanisme. Or, nous sommes en 1450.
Oui, la Renaissance est...
Bien beaucoup plus tard.
Oui.
Et là, ce n'est pas une Renaissance dans le sens où on retourne vers l'Antiquité, mais c'est en effet une Renaissance dans le sens où on s'intéresse à une dimension de l'homme qui a été peut-être négligée par toute l'iconographie médiévale.
On pense Erasme est pas loin.
Oui.
Si on doit faire un parallèle avec la littérature, Erasme palpite dans Nicolas de Led.
On peut penser aussi à Nicolas le Cusin, Nicolas de Cus, qui est un des grands théologiens du XVe siècle, qui est plus proche chronologiquement de Nicolas de Led, et qui a, en particulier, c'est lui qui a écrit ce texte magnifique sur un portrait du Christ, tête du Christ, dans laquelle il s'émerveille, parce qu'il nous dit ceci, « Où que vous vous placiez, il vous regarde ». Donc c'est tout à fait conforme à des portraits qu'on connaît de, justement du XVe siècle flamand, où le personnage, où la tête du Christ est représentée et il vous regarde toujours. Bon. Et ça, c'est le point de départ de tout un développement extrêmement intéressant chez Nicolas le Cusin. Mais c'est aussi un peu cela, la question de Nicolas de Led. C'est pas cette question du regard, non pas ici du Christ, mais le regard sur le monde ou le regard sur soi.
Oui, un regard mystérieux, mais très intime. Merci beaucoup, Roland Reste.